Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Les Français la connaissent peu. Or, elle a été une de celles qui a fait sans doute le plus pour la culture française à la fin du 19e siècle et dans la première moitié du 20e siècle. Vina Etta Singer-Polignac, mécène d'exception, pleine de talent elle-même, mais surtout de culture et de goût, un goût souvent avant-gardiste, a fait connaître nombre de remarquables musiciens et artistes de tout genre. Merci à Sylvia Cahan d'avoir accompli un fabuleux travail de recherche, d'enquête minutieuse et de nous livrer cet ouvrage passionnant dans lequel on découvre non seulement une femme énigmatique et complexe, mais aussi une famille à la réussite financière fabuleuse et une société qui vivait ses derniers instants d'insouciance. Cet ouvrage s'intitule Vina Etta Singer Polignac, princesse, mécène et musicienne. Il est édité aux Presses du Réel et j'ai le plaisir de recevoir son auteur. Sylvia Cahan, bonjour.
Bonjour Monique.
Voilà, bah vous êtes, alors je vais vous présenter, si vous permettez, à nos auditeurs. Vous êtes pianiste, vous avez joué en tant que soliste, concertiste dans de grandes salles de concert en Amérique du Nord, en Europe aussi, et participé à de nombreux festivals. Là, je vais vite parce que je suis sûre qu'on aurait beaucoup d'autres choses à dire. Mais vous avez eu un jour envie de transmettre, d'enseigner. Et vous êtes donc devenu professeur de piano et de musicologie. Alors, au Graduate Center, je garantis pas l'accent, hein, et au College of Staten Island, City University à New York.
Exact.
Hein, voilà. Et vous êtes bien sûr spécialiste de la musique et de la culture française de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Je ne sais pas pourquoi je dis bien sûr, parce que c'est tout à notre honneur et merci d'être là. Alors, comment avez-vous rencontré Vina Etta Singer-Polignac, finalement, dont nous, Français, nous ne connaissons pas tellement, ingrats que nous sommes, nous ne connaissons pas tellement l'existence?
Effectivement, j'ai découvert son nom dans une partition de musique parce qu'il m'a fallu organiser un concert pour mon doctorat, parce que c'était un doctorat pour les interprètes. Et j'ai ouvert la partition de la pavane de Maurice Ravel et voilà, j'ai vu comme ça, dédié à la princesse Edmond Polignac. J'ai déchiffré la partition, je l'ai fermée. Et donc, par coïncidence, la prochaine partition était la sonate pour piano d'Igor Stravinsky. J'ai ouvert la partition, tiens, dédiée à la princesse Edmond de Polignac. Et je me suis demandé qui est cette dame. Donc, j'ai cherché dans les dictionnaires de musique.
Votre curiosité.
voilà. Rien du tout. Donc, j'ai oublié. Et donc, quelques jours après, j'ai eu une répétition avec une cantatrice qui m'a dit « On va commencer aujourd'hui avec Mandoline de Forêt ». J'ai ouvert la partition, voilà, dédiée à la princesse Edmond de Polignac.
Trois fois, voilà.
Deux fois, c'est une coïncidence, mais trois fois, c'est une signe.
Voilà, un signe du destin. Et donc, vous vous êtes penchée sur cette princesse. Est-ce que vous avez trouvé facilement de la documentation?
Comment? Pas du tout. C'était très difficile. Oui. Parce que, comme vous dites, elle était méconnue aux États-Unis, ça c'est sûr. Mais même dans les bibliothèques en France, il y a dans chaque biographie des grands compositeurs tels Forêt, Debussy, Satie, etc., il y a deux paragraphes sur la princesse, mais pas grand-chose. Donc, ça a pris un bon moment de trouver la documentation nécessaire pour écrire une thèse.
Oui. Vous avez rencontré des membres de sa famille ou de la famille d'Edmond de Polignac, qui sera son dernier époux?
Oui. J'ai eu le grand plaisir de connaître le prince Louis de Polignac, qui habitait à l'époque à Monte-Carlo, parce que c'est un cousin germain du feu régné de Monaco. Et donc, il m'a très gentiment consenti à me permettre accès à ses archives de famille.
Archives,
oui,
voilà.
Exactement. Oui. Et ensuite, après, j'ai fait la connaissance des membres de la famille Singer, qui aussi m'a permis d'accéder les archives de famille.
Voilà, alors nous allons parler de cette famille Singer. Vous avez dit Singer, parce que tout à l'heure, moi j'ai dit Singer-Polignac, mais effectivement, en France, on connaît que ça, les machines à coudre Singer. Et j'aurais jamais pensé que ça enrichirait autant, comme quoi, vous voyez, les femmes, parce que c'était souvent les femmes qui étaient aux machines.
Hein. Oui, tout à fait, tout à fait.
Oui. Donc cette famille est extraordinaire à tout point de vue. La famille, alors Isaac Singer, un sacré bonhomme, hein, excusez-moi.
Ah ben oui, non, c'est vrai. Il est né dans la pauvreté absolue.
Oui, pendant 20 ans, très pauvre.
Très pauvre, mais il avait une génie pour la mécanique. Donc, il a une soi-disant carrière comme comédien. Donc, il a voyagé dans une wagon d'un village à l'autre en jouant Richard III ou les grands rôles shakespeariens. Mais pour gagner sa vie, il a fait une carrière de mécanique freelance.
Très adroit de ses mains.
Tout à fait, oui. Tout à fait. C'était,
et intelligent.
Très intelligent. Et une aptitude innée pour manipuler les mécanismes. Et donc, c'est comme ça qu'il a tombé sur la solution pour faire marcher plus souplement la machine à coudre qui a été déjà inventée par Elias Howe, mais qui marchait assez... ce n'était pas tout à fait facile de faire les tissus avec les coudes souples et bien linés. Donc, lui a découvert le truc.
Voilà, parce que en fait, l'inventeur, au départ, c'était un Français, et celui qui a perfectionné, ça a été un Anglais. Et lui a encore apporté une perfection supplémentaire que vous venez de nommer, et il a su aussi le vendre.
Oui, tout
voilà,
à fait.
C'est ça qui est également important. Alors, moi, j'avoue que j'aurais eu un petit faible pour Isaac Singer, à part quelques côtés, vous comprendrez pourquoi, parce que je me dis, mais quel original cet homme. Il avait à la fois, il avait ce sens pratique, mais il était très ouvert à la culture.
Absolument.
Et il a fait vivre d'ailleurs ses enfants, dont Vinarita, dans la culture.
Oui, tout à fait. Au fait, j'ai l'impression qu'au milieu du 19e siècle, même les familles qui n'étaient pas ce qu'on appellerait aujourd'hui cultivé, avaient chez eux quand même une Bible et les œuvres de Shakespeare. Donc, les soirs, devant une bougie, on récitait...
Il n'y avait pas la télévision.
Ouais, pas du tout. Mais pour ceux qui savaient lire, c'était la Bible et Shakespeare. Et donc, c'est comme ça que, sans doute, Isaac Singer a connu... Les pièces de théâtre de Shakespeare.
D'accord, d'accord. Alors, je trouve aussi, par certains côtés, très généreux. En particulier, il a épousé une femme qui avait déjà un enfant qu'il a reconnu, et beaucoup d'autres choses. Si on voit qu'autour de lui... Alors, il a le côté, on dirait en France, bling-bling.
Non, je crois pas. Au fait, il a eu une partenaire, Monsieur Clark. Et c'était le Monsieur Clark qui avait le cerveau pour le business.
Oui.
Et donc, c'était laissé à Monsieur Singer de faire ses fantaisies, ses inventions.
Oui, mais il aimait bien quand même...
Dépenser, ça c'est
voilà,
sûr.
Voilà, voilà. Oh, quand oui. Il dit bling-bling, il aimait bien
étaler
sa richesse.
Ah bah, c'était l'âge d'or, quoi.
Oui, évidemment.
C'était l'âge des fortunes.
De la réussite.
Fabuleuse.
Oui. Ah, oui.
On ne peut pas même imaginer aujourd'hui. Et c'était avant l'époque où on payait les taux.
Oui.
Donc, c'était la fortune pure et dépensée à volonté.
Oui. Et, oui, alors, cette famille, elle est fascinante parce qu'elle est à la fois pragmatique et cultivée,
oui.
Avide d'honneur et en même temps sortant des sentiers battus, original.
Oui.
Et puis, voilà, et le couple a l'air de s'entendre. Alors, le côté, là où je mets un bémol, c'est que quand même, il a une vie, c'est un charmeur, un séducteur. Et puis, on dit que le nombre d'enfants qu'il a eu?
Il a eu un petit 24 d'enfants. Dont il y avait des nombreuses mères, il y avait des petits amis partout dans les États-Unis, mais finalement, il a épousé une Française.
Oui, mais quand vous dites 24 enfants, ils ont tous hérité, plus ou moins, j'ai l'impression.
Oui, oui, oui.
Oui, oui, il les a pas oubliés.
Vous, il y avait des millions de dollars.
Oui, oui,
et
oui.
Il y avait une part pour chacun.
Pour chacun, oui. Vous voyez, comme quoi, parfois, ici en France, il y a des personnes que l'on connaît qui oublient certains enfants. Là, non, là, non. Mais alors, et l'autre côté, un peu mythomane, parce qu'il se donnait des titres qu'il n'avait pas forcément, ou des noms.
Ah ben oui, ou des prénoms fabulistes, oui. Comme Winnaretta, par exemple. Mais... Violette, Cléopâtre, les noms comme ça. Franchement, j'oublie parce que les noms sont tellement compliqués.
Mais lui-même, il n'a pas changé, il ne s'est pas donné d'autres noms de famille.
Ah oui, 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 oui.
Il me semble. Hein.
Il aimait les... quel est le mot en français pour les noms qui ne sont pas les vrais?
Les pseudonymes.
Les pseudonymes. Les pseudonymes.
Oui, oui.
Et donc, quand il s'est épousé enfin, Mademoiselle Boyer, c'est-à-dire la mère de Winnaretta.
Isabella.
Elle était déjà enceinte. Elle avait 8 mois. Et donc, il a pris... Donc, elle est venue aux États-Unis pour l'épouser, M. Sagère, sous le nom de famille Somerville. Bon, je n'ai pas le moindre idée comment ça se trouvait, mais M. Singer, il s'épousait, son épouse, sous le nom de Mérite, Isaac Mérite. Donc, il a laissé tomber le Singer. Je n'ai pas le moindre idée. Pourquoi? C'était un homme de théâtre, si
Absolument.
Vous voulez.
Absolument, oui, c'est
chaque
ça.
Acte de sa vie
oui,
était
oui.
un acte de théâtre,
voilà.
Si vous voulez.
Oui, oui. Il jouait sa vie, il jouait des rôles, plusieurs.
Bah oui.
Un seul rôle ne lui suffisait pas, une seule femme apparemment ne lui suffisait pas non plus. Voilà, alors, donc il est devenu riche grâce à 52 ans, j'ai noté, et il a fondé donc une société, la société Singer Manufacturing Company.
Oui.
Et alors, moi j'ai noté ça parce que je me suis dit, il avait quand même... 40% des actions,
oui.
Et son associé, qui était un avocat, qui s'occupait des choses embêtantes, finalement, des choses ennuyeuses, avait également 40%. Et ce que j'ai noté, c'est que, et ça, quand vous dites que c'est une époque incroyable, en 1863, une action valait 20 dollars, et en 1865, c'est-à-dire 2 ans plus tard, 80 dollars.
Exactement.
Oui.
Exactement. C'est fou.
Ah oui, oui, oui. C'était la période vraiment de la. De tout, tout était possible pour certains. Et alors, c'est curieux parce que vous avez dit qu'il a été très pauvre pendant quand même longtemps, au moins jusqu'à 20 ans. Et on se demande si ce n'est pas pour cela qu'il a eu besoin de reconnaissance, d'être accepté par la société, même la haute société.
Il voulait, mais la haute société ne l'acceptait pas.
Même aux États-Unis, on parlera de la France.
Même aux États-Unis.
Oui.
Donc, au moment où il est devenu archi riche, il a acheté un manoir.
Un castle? Le château?
Non, pas encore le castle.
Pas encore.
C'était un hôtel particulier en centre-ville à New York,
oui.
Mais il était rejeté par la société new-yorkaise. Ensuite, la famille s'est installée au bord de la rivière Hudson, et c'est là où il a acheté une manoir qu'il nommait The Castle,
le château,
quoi. Oui. Et ben, même là-bas, la famille se trouvait un peu isolée parce que, pour commencer, c'était la campagne, mais aussi les gens autour de lui ne voulaient pas
le
toucher
fréquenter.
Ce monsieur. Oui, oui, oui. Il parce avait un
Il n'avait pas une bonne réputation.
Non, finalement. Pas du tout, parce que son passé était mis dans tous les journaux.
Ah, oui.
On connaissait très bien ce passé avec toutes ces femmes et les enfants, etc.
Oui. Qu'est-ce qui l'a poussé à partir en Europe? Est-ce que c'est à cause de cela?
Je crois qu'il avait une peur, une crainte des guerres. Donc, la guerre de succession s'éclata aux États-Unis.
De sécession.
Sécession,
oui.
Excusez-moi.
Oui.
De sécession. Donc,
ah, oui.
En 1865, ou 64, j'ignore. Mmh. Il est parti avec sa petite famille pour l'Europe parce que Isabelle, qui était parisienne d'origine, elle voulait être auprès de sa famille parce qu'elle commençait d'avoir des enfants. Elle avait avec Isaac 6 enfants, dont Winnerette était la deuxième. Et donc, elle voulait être auprès de sa mère.
Et pour mettre à l'abri, voilà. Bah oui. Il voulait qu'il soit à l'abri de la guerre. Et d'ailleurs, avant de partir, il a fait un don.
Oui.
Un don de machines à coudre.
1000 machines à coudre pour l'armée du Nord.
On ne lui en a pas voulu de partir comme ça?
Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était plus facile à cette époque-là.
Est-ce que vous avez le sentiment que Winnerette a une enfance heureuse?
Non, elle était assez isolée elle-même, elle était solitaire, elle était timide.
Oui, timide.
Oui, c'était vraiment une timidité affreuse. Et donc, et en plus, elle était rejetée par sa mère.
Alors, sa mère, vous dites dans votre ouvrage qu'elle était fort jolie, effectivement, il y a des photos. Je n'ai pas dit que dans votre ouvrage, il y a beaucoup aussi de photos. C'est très intéressant de voir les portraits, les physionomies. Et sa mère était très belle.
Très belle.
Oui.
Très belle.
Et elle était gracieuse, enfin fine, mais elle avait un visage un peu plus ingrat, disons.
Oui, dur. Et au fait, c'est dit dans la mythologie de la famille que Madame Singer, Isabella, était le modèle pour la statue de liberté. Donc, j'ai pas le moindre idée. Et dans les biographies de Monsieur Bartholdi, qui a fait construire la statue, Bartholdi a dit que c'était sa mère à lui qui était le modèle, mais il n'y a aucune documentation sur ce sujet, mais quand on voit les visages, non seulement d'Isabella, mais aussi de Winnerette, on peut bien imaginer.
Oui, il y a une force de caractère.
Oui. Avec
un peu carré.
Assez carré, oui, tout à fait, et avec les yeux assez froids.
Oui, alors d'ailleurs, il y a sa main, le poète, qui l'a décrit ainsi. Grande, mince, svelte, 25 à 26 ans environ, la tête fine, intelligente, avec quelque chose de volontaire, semble-t-il, dans le front et dans le menton. La bouche est sérieuse, a un léger avancement de la lèvre inférieure, donne un peu de hauteur au sourire. Elle parle lentement, avec un léger accent britannique. Je vois qu'elle suit de très près les mouvements artistiques de l'époque. Elle lit des revues avancées, connaît des expositions rares et ferventes de Bayreuth et paraît s'intéresser vraiment aux tentatives d'où peut sortir une conception d'art nouvelle. Voilà, ça c'est un des... À plusieurs reprises d'ailleurs, il y a des descriptions de gens, parce qu'elle intrigue.
Oui. J'ai l'impression qu'elle était très, ce qu'on dit, charismatique, comme son père d'ailleurs. Donc elle avait quelque chose dans son visage, dans son caractère, qui attirait les gens.
Et en même temps, le père me paraît beaucoup plus extraverti.
Oui. Elle avait sans doute des complexes à cause de sa mère, qui était une mère froide.
Oui. Oui, elle est assez mutique, elle parle peu.
Elle parle peu, et en plus, elle a eu les lèvres qui tombaient, donc elle parlait comme ça. Et donc ça l'a distancée davantage à sa mère, qui voulait une fille dans son propre image.
Jolie. Mignonne.
Et Winnerette n'était pas ce qu'on pourrait dire jolie.
Oui, et elle avait un caractère assez indomptable aussi.
Oui.
Alors, bizarrement, d'emblée, on sent qu'elle est attirée par la musique. Et pourtant, elle va d'abord se tourner vers la peinture.
Oui, parce qu'elle a écrit dans ses mémoires.
Elle a écrit des mémoires aussi.
Ah oui, elle a écrit des mémoires, qui étaient publiées d'ailleurs.
D'accord.
Dans un petit journal britannique qui s'appelle Horizon. Et donc, c'est tout petit, il y a une vingtaine de pages, mais c'est fascinant, ces mémoires. Mais elle a dit qu'à cette époque-là, c'était les parents qui ont décidé que tel ou tel enfant va jouer le violon, un autre enfant va faire la peinture, un autre la sculpture, etc. Et donc, c'était décidé par les parents de Winnaretta qu'elle deviendrait peintre.
Ah oui, incroyable.
Comme
les
ça.
Parents, parfois, exagèrent.
Ah bah oui, tout petit peu. Hein.
Bon, mais... Et en plus... Elle était plutôt douée pour la peinture. Il y a au moins un tableau que vous montrez et c'est vraiment bien.
Oh, bah oui. Non, elle était vraiment douée pour la peinture.
Oui.
Parce qu'elle avait ce sens inné pour toute chose de beauté. Donc, elle était vraiment liée avec
à ça, uniquement. Oui, oui. Elle était pleine de oui. ce goût de l'esthétique, finalement.
Oui, oui, oui. Oui. Et au fait, je vous raconte une histoire, peut-être vous n'êtes pas encore là dans le bouquin, mais à l'âge de 70, elle passait par une galerie d'art à Paris, elle a vu une de ses toiles qui était...
Oui.
Identifié comme un Manet, qui était son héros d'ailleurs.
Oui, 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 bien sûr. Voilà, alors nous allons faire une première pause musicale et nous allons écouter. Alors justement, vous avez parlé tout à l'heure de Maurice Ravel et vous avez signalé que Pavane pour une infante défunte avait été dédicacé à la princesse de Polignac. Eh bien voilà, nous allons l'écouter ensemble, du moins une partie malheureusement, le temps nous étant imparti, ne permettant pas de tout écouter. Et ce sera sous la direction de Michel Plasson, qui a été notre grand chef d'orchestre toulousain.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
N'est-ce pas, Sylvia Caron, qu'on continuerait à écouter Gabriel Fauré, Maurice Ravel, pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Effectivement, on va parler de Gabriel Fauré, parce que lui aussi a été un homme important dans sa vie. Voilà, nous rejoignons, donc nous avons le plaisir de retrouver Sylvia Caron, et nous parlons de Vinarita Singer Polignac. Singer, c'est la famille Singer, famille fabuleuse, richissime, et Vinarita, en fait, a vécu essentiellement en France, où elle a tenu salon, et où elle a distribué... aider les artistes, mais d'une manière incroyable. Mais nous allons en parler de tout ça. Voilà que son père, justement, meurt. Son père adoré. J'ai l'impression qu'avec ses enfants, il était adorable, effectivement. Peut-être qu'avec ses épouses, moins. Mais il laisse un colossal héritage.
Ah, tout à fait. Bah, oui. Tous ces machines à coudre. Et c'est un peu marrant à songer que celui qui a libéré... des générations de femmes étaient lui-même un lotario, donc un peu d'ironie là-bas, mais il est vrai que cette fortune colossale était partagée entre les 24 enfants, et donc Vinarita était une milliardaire à l'âge de 11 ans.
Oui, voilà. Alors oui, justement, donc là, on peut s'inquiéter un petit peu, parce que Isabella se remarie très vite, la mère, l'épouse, donc la veuve, avec un violoniste, ténor, et j'ai ajouté escroc aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Si Isaac Singer était une fabuliste, oui, le deuxième époux était
puissance 20. Oui, même son nom et son titre étaient des noms et des titres d'emprunt, totalement.
Oui. Il prétendu que dans son passé, il y avait un titre ducal. Donc, il a joué sur ce mythe. Il a fait la connaissance de la belle veuve Singer. Elle était très attirée par ce bel homme, grand, brun, charmeur, charmant, jouait le violon à merveille, chantait merveilleusement. Et lui était attiré par la fortune Singer.
Qu'il a dilapidée.
Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Il s'est épousé et il commençait tout de suite à gaspiller la fortune. Oui. Et donc, mais ce qui est intéressant, il a ramassé une collection d'instruments à cordes fabuleux. C'était des instruments Stradivari et Guarnerius. Toute la collection de Henri Vieuxtemps, par exemple, qui vient de décéder. Et donc, c'était ce monsieur Victor Rubsat qui a acheté des enfants Vieuxtemps, toute la collection de leur père. Et donc, chez ce musicien, le beau-père de Vinarita, avait lieu des interprétations de la grande répertoire de musique de chambre, donc tel Beethoven, Mozart, Schubert, Mendelssohn, etc. Et donc... la mère, la veuve et le nouveau époux ont créé un salon chez eux et c'était là où Vinarita avait sa formation, si vous voulez, musicale, parce qu'elle a pris des leçons de piano, de l'orgue, mais c'était vraiment chez elle où elle a pu entendre
les grandes œuvres. Malheureusement, alors rien n'a été vraiment dit, mais on pense qu'il a peut-être violé sa belle-fille.
Oui, c'est dit.
C'est dit, ce qui expliquerait peut-être après ses orientations sexuelles, on ne sait pas, mais on peut faire des suppositions, parce que de toute façon, elle l'avait pris en horreur, son beau-père, elle ne le supportait pas.
Oui, tout à fait. Et dès qu'elle a eu ses 21 ans, elle a quitté tout de suite la maison et elle a racheté une maison pour elle.
Oui, parce que du coup, elle avait droit à l'héritage.
Exactement,
Mais l'héritage auparavant, alors qu'elle était mineure, c'était des personnes aux États-Unis, non, qui s'occupaient
Non, c'était en Angleterre.
En Angleterre.
Donc, en effet, M. Singer avait un businessman, un homme d'affaires, Mr. Woodruff, qui a... qui a géré les fortunes des enfants.
Oui, et ça a été une chance.
Oui, tout à fait, parce que sinon, le prétendu duc aurait gaspillé les fortunes des enfants aussi. Oui.
Alors, ce que l'on voit, c'est que très vite, elle a des goûts de précurseur, elle a des goûts, alors que bon, Monet fait scandale, Degas, bon, Sisley, Boudin n'ont pas eu d'emblée l'aura qu'ils ont, mais ne parlons pas de maintenant. Elle, d'emblée, elle a aimé, elle a adoré Monet, par exemple.
Oui, et c'était d'abord Manet.
Manet, oui. Il y a Manet d'abord.
Et au fait, son maître, Félix Barrias, avait un studio à côté de celui de Manet. Et donc, quand elle a monté au studio pour faire la peinture, elle tâchait de temps en temps de voir le grand maître Manet, mais il était toujours absent ou il peignait. Donc, après sa mort, elle était déchirée de deuil pour ce grand peintre, et elle osait demander d'avoir une petite carte de visite qui était toujours à la porte du studio.
Voilà, qu'elle a gardé précieusement.
Oui, absolument.
Alors, nous sommes en compagnie, je rappelle, de Sylvia Cahan, qui nous parle, qui vient de New York. Merci d'être venue si loin.
Merci à vous.
Et qui nous parle donc de Vinaretta Singer-Polignac, princesse, mécène et musicienne. Et alors, bon, on parle de son goût pour la peinture, et elle a toujours eu le goût de ce qui était nouveau, de ce qui faisait, et un goût très sûr, parce que vraiment, c'est vrai que la qualité de ces artistes s'est confirmée par la suite.
Oui. Et c'est ça qui est miraculeux, quoi. Parce qu'elle reconnaît la qualité. Mmh. Elle reconnaît les tendances artistiques. C'était vraiment avant la garde,
oui,
si vous voulez.
Tout à fait. Oui. Et alors, elle revient bien entendu à ses premières amours, c'est la musique. Et même dans ce domaine-là, elle est assez classique, néoclassique, vous direz, avec la tendance hellénique de l'époque d'ailleurs. Alors oui. Évidemment, parce que Bach, c'est une valeur sûre quand même.
Oui.
Et puis alors ensuite, Ravel, j'ai noté Erik Satie, Stravinsky. Elle a ce goût pour tout ce qui se fait de différent. Alors, elle a son hôtel, elle est célibataire, et à l'époque, ça pose un problème d'être célibataire, une femme seule, même riche, ça pose un problème. Elle va se marier. Elle va se marier peut-être aussi pour échapper d'une certaine manière à son beau-père qui a toujours des vues sur l'héritage de sa belle-fille.
Exactement. En effet, elle a choisi le premier prince qui se présentait parce que elle ne pouvait pas monter en haute société, qu'elle voulait d'ailleurs, en tant que Mademoiselle Singer. La fille d'une industrielle américaine, ce n'était pas de la race, si vous voulez.
C'était peut-être pire qu'à New York.
Mais tout à fait, exactement. Et donc, il a fallu se marier un titre. Donc, elle a choisi un prince de Saint-Montbéliard, une grande famille, de la noblesse. Lui était le troisième fils dans sa génération, donc il n'avait pas grand héritage, mais quand même c'était un prince. Et donc elle avait sa fortune Singer, donc il s'est épousé. Et tout de suite, juste après, ce beau-père est mort.
Pas de chance.
Donc elle est restée avec ce prince de Saint-Montbéliard pour 4 ans. Et donc, après, le mariage était annulé.
Mais grâce à cela, grâce à son titre de princesse, les salons se sont ouverts. C'est incroyable, quand même.
Incroyable.
Oui, cette époque. Alors, elle-même va ouvrir son salon de musique. Effectivement, c'était la grande mode des salons. Et elle a, vous disiez, elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin, bon, elle a envie aussi d'attirer à elle non seulement les plus grands artistes, mais aussi le public le plus, le plus remarquable.
Ben oui.
Voilà. Elle va recevoir surtout des artistes d'avant-garde. Et évidemment, il y a Debussy, Chabrier, hein, ce sont les deux premiers, non, je crois, qu'elle, qu'elle reçoit.
Bah, aussi, il y avait les jeunes compositeurs de la Schola Cantorum, dont Vincent Dindy et le groupe autour de lui. Et aussi les grands organistes, parce qu'elle avait chez elle, elle a fait construire une orgue Cavaille-École chez elle. Donc, elle avait des séances d'orgue. Parce que Cavaille-École, que Jean, je viens d'apprendre qu'il est venu de cette région. Donc, elle a fait venir les grands organistes, Alexandre Guilmant, Gigou, par exemple, pour jouer chez elle.
Alors, on parlait de salon. J'ai appris, moi, qu'Alphonse Daudet tenait un salon. Vous voyez, je ne savais pas. J'en étais restée aux lettres de mon moulin. Pas seulement. Mais et on voit que beaucoup de femmes, de l'aristocratie particulièrement, mais également de la haute bourgeoisie, ont leur jour, ont leur salon. Et on voit aussi que l'intérêt de ces salons, c'est que, justement, contrairement aux organismes publics, on y reçoit, justement, les artistes d'avant-garde.
Oui, tout à fait. Donc, afin d'avoir une carrière comme compositeur, il fallait écrire les opéras. Parce que, à part ça, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, il n'y avait pas beaucoup de sociétés symphoniques, et même ces sociétés ont favorisé les maîtres allemands. Beethoven, Schubert, Mendelssohn. Donc, pour des jeunes compositeurs français, il y avait très peu de chances de faire entendre la musique. Et donc, c'était dans les salons. Les salons étaient un peu comme les laboratoires pour expérimenter, pour essayer, pour voir comment ça se passe devant un public restreint, mais cultivé. Et donc, c'était dans ces salons tenues pour la plupart par les dames, par les femmes de la noblesse.
Pendant que les maris chassaient ou jouaient au golf.
Ou dormaient. Donc, c'était grâce à ces salons que la jeune génération de compositeurs français peuvent faire entendre leurs œuvres.
Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que... là, je vais un peu trop vite parce qu'elle rencontre une comtesse, Elisabeth Greffühl. Oui. Je ne sais pas comment on prononce Greffühl.
Greffühl,
qui a été ravissante. J'ai vu des photos d'elle. Elle était vraiment des photos ou des portraits d'elle, mais peut-être des photos. Avec un mari d'une vulgarité étonnante, un despote, terrible. Et elle lui ouvre son salon qui est pourtant très fermé. Alors, vous notez qu'en fait, elles ne sont jamais devenues très amies. Je pense qu'il y avait toujours cette histoire d'origine, de classe sociale probablement. Mais ce qui m'a amusée, c'est que Proust, et c'est vrai que moi j'adore Proust, ce qu'il écrit, et il a utilisé beaucoup des personnes qu'il a rencontrées dans le salon de la comtesse Elisabeth Greffühl. Il y a beaucoup comme personnage qu'il a mis dans ses romans.
Ben oui, on dirait que Elisabeth Greffühl, la beauty queen de la France, était le modèle pour la duchesse de Guermantes.
Tout à fait. Voilà. Alors cette vie, je note qu'il voyage énormément. Et elle, en particulier, elle va nouer une amitié très importante avec Gabrielle Fauré, qui se meurt d'amour pour elle. Et elle, elle l'aime d'amitié, mais lui, vraiment, il lui envoie des lettres enflammées. et quand même, elle va lui organiser une soirée, dites-moi si je me trompe, 5 mélodies de Venise avec le livret d'Albert Samin, le poète Albert Samin.
Alors, donc, c'est deux choses différentes et je tâche d'expliquer. Donc, Gabrielle Fauré... elle a fait sa connaissance à Normandie pendant les étés parce qu'il y avait un groupe d'artistes et musiciens qui se sont réunis près de Deauville, Villers-Ville, dans cette partie de la Normandie. Et donc, c'est là où elle a fait la connaissance de forêt qui est venu rester avec des amis. Et toutes les soirées, ils ont joué la musique. Donc, elle a eu la chance d'entendre les œuvres, les premières œuvres de forêt, le quatuor en do mineur formidable. Donc, elle était dans le charme de cette grande musique.
Et elle l'a encouragé.
Exactement. Donc, lui avait 20 ans plus âgé qu'elle. C'était un peu comme Robert et Clara Wieck. Robert Schumann et Clara Wieck. Mentor, élève. Et donc, elle a appris beaucoup de forêt. Donc, au fur et à mesure, quand elle était dans sa majorité et elle a eu sa fortune, elle voulait aider son ami Forêt. Oui. Donc, elle a passé sa première commande de musique à Forêt. Elle voulait un texte, un livret de Verlaine. Sur le sujet de Bouddha. Donc, Forêt n'était pas très chaud. Je viens d'apprendre que ce pamier n'est pas loin d'ici, à Toulouse.
Non.
Donc, il avait cette amabilité, il n'était pas du tout intellectuel, il adorait le soleil, le vin, les femmes. Donc, ce n'était pas son truc.
Bouddha, la vie
de Bouddha. Donc, il traînait, il n'a pas arrivé à terminer ce projet, mais quand même, Winner était un peu vexé par le fait que Forêt n'a pas terminé la commande. Quand même, il avait des soucis, il avait des migraines, il était archi-pris par son travail comme maître de chœur à la Madeleine, l'église de la Madeleine. Donc, elle a invité de passer des vacances à Venise. Et elle avait préparé une chambre où il pouvait écrire, mais lui, il préférait le Piazza San Marco. Et donc, c'est là, parmi les foules, qu'il a écrit ce qu'on appelle aujourd'hui les 5 mélodies de Venise.
D'accord. Et alors, elle a toujours eu le regret de n'avoir aucun texte de Verlaine qui, le malheureux, je ne sais pas si c'était l'alcool ou la drogue,
il était en train de mourir de l'alcoolisme.
Il était en piteux état. Et alors, quand vous parlez de ces mélodies de Venise, ces 5 mélodies de Venise, il y a une lettre de Gabriel Fauré. Chère princesse, je ne puis pas ne pas vous remercier pour la si bonne soirée d'hier. Personne ne sait comment vous me mettre en évidence et faire partager par tous la sympathie que vous avez la bonté de me témoigner. Soyez bien assurés que je suis toujours minutieusement sensible à tous les témoignages de votre chère amitié et que je vous en garde la reconnaissance jusque dans les plus petits coins de moi-même. Il me tarde bien de vous voir plus souvent. Cela devient lugubre, la vie que je mène. Bien à vous, très sincèrement, très affectueusement et respectueusement, et encore merci. Bon, il y a effectivement Gabriel Fauré est sous le charme, et puis il y a cette compréhension intellectuelle et artistique également, voilà.
Oui, et ce que je trouve un peu, pas bizarre, mais je rends compte du fait que Fauré, c'est un grand compositeur, elle était une adolescente, mais dès qu'elle a eu sa fortune, leurs rôles sont renversés, parce que c'était elle avec le pouvoir, avec la fortune, elle était une princesse, c'était elle qui passait les commandes, et c'était lui, le pauvre compositeur, qui était obligé de gagner sa vie en recevant les commandes, comme ça.
Renversement de situation.
Oui.
Sylvia Caron, je vais vous proposer une seconde et dernière pause musicale. Éric Satie. Voilà. Alors, Gymnopédie numéro 1. Gymnopédie, qu'est-ce que ça signifie exactement?
Pas grand-chose.
Alors, nous l'écoutons. Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, dernière partie de notre rencontre. Hélas, dernière partie, il faudra que vous reveniez, Sylvia Cahan.
Merci.
Pour nous parler de Vinarita Singer-Polignac et surtout et de tous ces artistes qui ont gravité autour d'elle. On a le vertige quand on voit toutes les personnes qu'elle a rencontrées. On parlait hors antenne de Gertrude Stein, de Picasso. Gertrude Stein qui était également, elle aussi, mécène par beaucoup de côtés. Jean Cocteau, Picasso et Isadora Duncan. Mais alors dans toutes les branches de la culture et de l'art. Voilà, alors en fait, donc nous voyons que avec Gabrielle Fauré, il y a une entente intellectuelle, artistique, et on se rend compte aussi que elle séduit quand même pas mal d'hommes à un moment donné. Elle est poursuivie par quelqu'un, on rit parce que bon, on imagine. Et puis quand même, on doit se poser des questions. Est-ce que c'est moi que l'on a envie de rencontrer ou est-ce que c'est mon argent? Je trouvais que c'était une situation un peu difficile aussi.
Oui, c'est complexe parce que d'un côté, elle avait sa fortune, donc il y avait des gens qui cherchaient, côtoyaient,
oui,
etc. Mais d'autre côté, ses goûts, ses raffinements, sa sûreté de vision artistique attiraient des gens sincèrement.
Oui.
D'être dans son cercle, quoi.
Oui, tout à fait. Alors, elle rencontre, et il me semble que c'est dans le salon de la comtesse Elisabeth Griffin, il me semble, elle rencontre le prince Edmond de Polignac.
En effet. Donc, c'était son deuxième époux. À cette époque-là, elle a reconnu qu'elle était une lesbienne. Donc, elle ne pouvait pas avoir un mariage conventionnel, ça c'est sûr. Mais quand même, afin de circuler en haute société, il fallait
avoir un
titre, exactement, un mari. Donc, il y avait un ami en commun, c'est-à-dire c'est le cousin d'Elisabeth Greffel, le comte Robert de Montesquieu, qui a eu l'idée d'introduire Winaretta avec un prince Edmond Polignac, compositeur de la noblesse.
Qui lui non plus n'aimait pas trop les dames.
Oui, tout à fait. C'était un homosexuel, très talentueux.
Sympathique. Tout le monde le décrit comme quelqu'un de délicieux.
Oui, j'ai l'impression que c'était un monsieur adorable. J'aurais voulu le connaître.
Oui, c'est un fait. Il est grand lecteur. Il est extrêmement gentil. Il a beaucoup d'humour.
Oui, et rêveur.
Oui.
On le voit dans la grande toile de James Tissot, le cercle de la rue Royale, et lui est assis.
Oui, avec un peu effondré même.
Exactement.
Dans son parce qu'il est fragile de santé.
Oui, tout à fait. Donc, Montesquieu et la comtesse Greffel ont conçu cette idée de ce mariage parce que lui était compositeur, il était raffiné, il avait des goûts très sensibles. Elle avait sa fortune et elle aussi était musicienne. Donc, ils arrivaient à se réunir, ces deux gens. Et, surprise, ils se tombaient amoureux l'un pour l'autre.
Vraiment, vraiment. Alors ça, c'est très émouvant de voir qu'en fait, ce sont deux esprits, deux âmes qui se sont rencontrés.
Absolument.
Vraiment. Alors, en dehors de toute relation physique, sexuelle, en fait, ils se sont aimés, ils se sont respectés, admirés même, et entraidés d'une manière fabuleuse.
Oui. Donc, comme vous avez dit, le prince de Polignac avait une santé assez fragile, donc il s'est épousé et donc il est mort 7 ans après. Mais dans ces 7 ans de mariage, c'était un couple idéal.
Oui.
Bien évidemment, il n'avait pas un aspect sexuel dans leur union, mais par contre, c'était leur salon musical qui servit comme la consécration de leur mariage.
Oui.
C'était
vraiment le
symbole de leur union.
Voilà, de leur union. Voilà, alors bon, on sait qu'elle a beaucoup aidé Edmond de Polignac, qui était doué, mais ça ne marchait jamais avec lui. Et du coup, il déprimait, du coup, il était malheureux, ruiné. À un moment donné,
Oui, il a gaspillé sa petite fortune.
Oui, mais... Ouais. mais en même temps ne réclamant pas. Mais en fait, oui, c'est un mariage étonnant. Et tout le monde s'accordant à dire que c'était un mariage qui fonctionnait. Alors, on pourrait dire, alors je ne sais pas combien de temps il nous reste. Pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Oui, on pourra dire que, on pourrait parler encore et encore. Mais écoutez, Sylvia Cahan, on va dire à nos lecteurs, aux auditeurs, pardon, d'être des lecteurs maintenant et de se reporter à votre ouvrage, qui est un ouvrage qu'on peut lire tout l'été, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de renseignements sur cette vie de l'époque. Cette vie particulière, parce que bon, on la connaît plus, elle existe peut-être encore un peu, mais la vie d'une société qui était en train de disparaître.
Ben oui, on appelle cette période la Belle Époque.
La Belle Époque.
Et pour raison, parce que c'était la grande époque où les auteurs, les écrivains, les artistes, les danseurs, les compositeurs, les interprètes se connaissaient tous. Oui. Et donc, ils se réunissent tout le temps, dans les salons surtout, ouais, pour faire entendre le nouveau morceau de tel ou tel, de
lecture,
réciter la
lecture,
poésie, oui, oui, mais vraiment, et donc c'était sympathie entre artistes, ouais, et donc c'était elle qui a animé,
voilà, qui
était ce genre de rencontre.
Oui. Voilà, et c'était à la veille d'une catastrophe internationale. Bon, la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la Première, bien sûr, mais la Seconde Guerre mondiale qui a tout chamboulé, tout dévasté. En tout cas, Sylvia Cahan, un grand merci pour votre ouvrage et pour votre venue. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Vinaretta, Singer, Polignac, princesse, mécène et musicienne aux éditions Les Presses du Réel. Merci.
Je vous remercie, Monique.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.